Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce 150e numéro de Métropolez-vous. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire et les dernières nouvelles ne portent guère l'optimisme pour les semaines qui viennent, mais ça ne va pas nous empêcher de parler des actions et des projets toujours en cours dans la métropole toulousaine. Nous en avons évoqué quelques-uns lors d'émissions précédentes. Il est un domaine où l'activité demeure forte malgré la période que nous traversons. C'est celui de l'habitat et du logement, un secteur très important sur notre territoire, ne serait-ce que pour faire face à la dynamique démographique toulousaine. Il faut construire des logements, il faut imaginer un projet d'habitat et anticiper les besoins pour les 15 ou 20 prochaines années. Il m'a donc semblé judicieux de faire le point sur la politique de la métropole dans ce domaine et sur les choix qui y ont été faits. Toulouse Métropole mène des actions, donne des orientations, mais aussi gère et finance un certain nombre de dispositifs destinés aux propriétaires ou aux locataires. La crise sanitaire a là encore des conséquences et la collectivité métropolitaine a un rôle à jouer pour soutenir le secteur. Le présent numéro de Métropolez-vous se propose donc de vous brosser le tableau le plus complet possible de la situation de l'habitat et du logement dans la métropole toulousaine pendant la crise sanitaire. Et pour faire le point sur la politique de la métropole toulousaine dans les domaines de l'habitat et du logement, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l'habitat et du logement. Bonjour Madame la vice-présidente, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour que nos auditeurs aient une bonne vision de cette compétence métropolitaine, est-ce qu'on peut préciser d'emblée son champ d'intervention, son champ d'action, notamment par rapport aux communes métropolitaines? Quelles sont vos responsabilités et vos missions?
Bien, bonjour d'abord, cher monsieur. Bonjour à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver. Nous nous étions vus il y a quelques années de cela et on va voir que notre ambition est toujours forte dans ce domaine-là. Alors, je suis ravie en effet que cette délégation à l'habitat et au logement m'ait à nouveau été confiée par mes collègues de la métropole avec lesquels, en effet, il est important de travailler. La métropole, ce sont 37 communes. Alors, évidemment, on a toujours tendance, quand on parle métropole, à penser Toulouse, mais ce sont 37 communes qui doivent se mettre finalement d'accord sur cette politique du logement et de l'habitat. Tout l'enjeu de cette thématique qui est extrêmement importante dans le quotidien de nos concitoyens, c'est de travailler de façon consensuelle, équilibrée, territorialisée, avec l'ensemble des maires de la métropole, de la plus petite ville de la métropole, Mondouzil de 140 habitants, à la plus grande, effectivement Toulouse, avec des enjeux qui peuvent être différenciés. Et j'ajouterai que notre rôle, et mon rôle tel que je le conçois et que je l'aborde, c'est de travailler non seulement avec l'ensemble de cette diversité à la fois territoriale et de mes collègues maires, mais aussi avec des partenaires institutionnels, des partenaires auprès des acteurs de l'habitat et du logement, bailleurs sociaux, promoteurs privés, partenaires associatifs aussi qui ont un grand rôle à jouer, on le verra, et particulièrement dans cette crise sanitaire, et puis aussi les autres élus d'autres délégations, puisque l'intérêt de cette politique très particulière de l'habitat et du logement, c'est qu'elle est à la frontière, et je dirais à la convergence de bien d'autres politiques. Alors, je ne peux pas en parler sans évidemment citer mes collègues, Annette Léniaud à l'urbanisme, Dominique Fouchier, bien sûr, sur la politique foncière, qui est aussi un vecteur extrêmement important, mais ma collègue, Madame Katzenmeyer, qui est présidente de la commission Habitat-Logement, Monsieur Cognard, qui travaille aussi sur tous les secteurs de la politique de la ville, les quartiers les plus en difficulté. Notre collègue aussi, Monsieur Alves, sur la politique du handicap. Et bien sûr, dans un partenariat encore plus grand et encore plus fort, Julie Escudier, mais qui je pense...
qui est venue récemment.
Voilà, vous a parlé récemment. Et Daniel Rouget, également sur les politiques de solidarité et d'inclusion. Voilà, donc c'est un groupe de travail extrêmement fort. Et puis, je n'oublie pas non plus des thématiques nouvelles, l'environnement, l'écologie, font quand même une entrée particulièrement remarquée dans ces politiques du logement et de l'habitat, parce que les enjeux sont forts aussi dans ces domaines-là.
Voilà, donc beaucoup d'enjeux autour de cette compétence habitat et logement. Alors, il y a une volonté affichée de Toulouse Métropole à travers ce qu'on pourrait appeler une sorte de slogan, plus de logements pour un territoire solidaire et équilibré. Est-ce qu'on peut en déduire que le but est d'une part de proposer une offre de logements suffisante et adaptée à tous les citoyens, quel que soit leur revenu et leur statut social, et d'autre part de faire en sorte que cette offre soit répartie de façon équilibrée sur tout le territoire métropolitain ?
Alors, vous avez quasiment tout dit et il faut expliquer pourquoi. Deux grands éléments. D'abord, la dynamique démographique de Toulouse Métropole et de ses 37 communes qui nous amène en effet à accueillir chaque année, alors soit au titre du solde naturel, c'est-à-dire le différentiel entre les décès et les naissances, des familles qui s'agrandissent et c'est une bonne chose, et la dynamique aussi économique, jusque-là en tout cas, qui nous permettait d'acter que chaque année nous accueillons à peu près 15 000 nouveaux habitants. Et donc on ne peut pas, comme on disait souvent, vouloir les emplois et pas les habitants, et il faut s'en occuper. Il faut donc les loger. Ça, c'est le premier fondamental, je dirais, de cet accueil et de cette idée de construire davantage pour accueillir peut-être plus, mais en tout cas surtout mieux et bien. Et puis, il y a également les impératifs que nous donne la loi, parce que le logement, c'est une diversité de logements. Et on a les problématiques de logements sociaux qui sont au cœur de nos préoccupations. Le logement social, c'est extrêmement important. La loi a posé, maintenant de longue date, et a renforcé encore cette obligation, que chaque commune de plus de 3500 habitants dispose de 25% de logement social dans sa commune. Ce qui nous amène donc, en effet, à porter cette ambition de la construction de logements et particulièrement de logements sociaux. Il faut avoir en tête qu'il y a un grand pourcentage de notre population qui peut prétendre au logement social et qu'il faut sortir peut-être des images un peu collectives ou intuitives qui pourraient arriver. Le logement social, ça permet aussi à toute une catégorie de personnes d'accéder au logement, de démarrer dans la vie, de commencer un parcours résidentiel. Ça peut être des jeunes, ça peut être aussi des personnes plus âgées. En tout cas, c'est ce que nous rencontrons chacune et chacun dans nos villes.
Alors, concernant le logement étudiant, je fais un petit point là-dessus, et aussi ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. Il y a aussi des dispositifs qui existent, en tout cas, il y a des prérogatives qui relèvent de la métropole.
C'est vrai, alors parfois elles sont partagées. Concernant le logement étudiant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, les étudiants sont aussi au cœur de nos préoccupations, de nos problématiques.
La crise sanitaire pose de sérieux problèmes pour le logement étudiant.
La crise sanitaire a montré aussi que les étudiants sont beaucoup en recherche de logement et que lorsqu'ils sont logés et mal logés, ça pose aussi bien des difficultés. La métropole partage cette compétence avec la région, avec l'État et s'appuie sur des partenaires, notamment le CROUS, bien évidemment, et ça tout le monde le comprend. Et donc nos dispositifs sont des dispositifs de partenariat qui sont portés à travers les accords que nous avons avec la région, avec l'État, par des financements particuliers. La Caisse des dépôts, la Banque des territoires vient aider au financement et Toulouse Métropole abonde en effet ces dispositifs, notamment pour rénover certain nombre de résidences étudiantes qui existaient, qui sont anciennes et qui maintenant nécessitent une intervention lourde, et puis pour produire aussi des nouvelles résidences étudiantes. En ayant à l'esprit que les étudiants vont aussi parfois avoir des nouvelles demandes en termes d'habitat différencié. Alors on voit que la colocation, par exemple, se multiplie. Beaucoup d'étudiants vont aller vers ces systèmes de colocation lorsqu'ils en ont la possibilité, lorsqu'ils en ont des moyens. Ils viennent là capter des logements plus grands. Et du coup, en l'absence d'autres offres qui pourraient leur être faites, ce sont des logements plus grands qui du coup ne bénéficient pas aux familles. Et nous avons aussi une ambition, c'est de conserver dans la métropole toulousaine nos familles.
Une nouvelle donnée à intégrer évidemment dans la politique
Exactement.
De l'habitat de la métropole. Alors justement, la politique de l'habitat de la métropole, il y a deux axes principaux, si j'ai bien compris. Un logement de qualité pour tous. Et j'ai vu qu'il y avait un document qui existait qui s'appelle le livret qualité d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce document ?
Alors, le livret qualité d'usage, c'est un livret co-construit avec les partenaires de l'acte de construire, les promoteurs privés comme les bailleurs sociaux, pour définir ensemble ce qui est un logement dans lequel on va vivre bien et dans lequel on va pouvoir avoir un parcours aussi résidentiel. Alors, à travers ce cahier des charges, cette qualité d'usage des logements, on va par exemple parler de logements traversants, de logements bien aérés, de logements bien orientés, de logements bien isolé. On va aussi parler de surface des pièces, c'est-à-dire qu'on va demander par exemple aux promoteurs comme aux bailleurs sociaux de ne pas nous proposer des T3 ou des T4, mais qui ne permettraient pas en effet, de par leur surface, une vie agréable et confortable pour nos familles. C'est ça la qualité d'usage. C'est la surface des pièces de vie, mais la surface des pièces annexes. Ça peut être aussi comment on aborde les parties communes. Et donc, évidemment, que ce label qualité d'usage, hein, qui s'appuie sur des labels nationaux qui existent, hein, je pense notamment à Cercal, eh bien, il va évoluer. Il va évoluer avec nos nouvelles habitudes de vie. Et on voit, et je veux insister aujourd'hui, qu'avec la crise sanitaire, eh bien, on va devoir peut-être aller plus loin dans cette qualité d'usage. Aujourd'hui, c'est un exemple que je donne pour être bien concrète. On parle beaucoup de télétravail, on voit que beaucoup de personnes sont amenées à travailler chez elles. Devra-t-on penser demain à introduire en effet une pièce supplémentaire réservée à un espace de travail ? Ou est-ce que cette situation que nous vivons est strictement contextuelle ? Faut-il au contraire imaginer qu'elle va se pérenniser, se structurer dans le temps ?
On peut le penser.
On peut le penser. Donc comment on aborde cela ? Est-ce que c'est dans l'unité de logement ? Est-ce qu'au contraire, c'est à l'échelle de l'immeuble ? Comment on trouve...
Est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est collectif à l'intérieur de l'immeuble ?
Exactement. Est-ce qu'on doit prévoir de nouveaux espaces communs de loisirs pour venir discuter, pour venir faire des loisirs créatifs, de la lecture, de la culture. Donc, on va voir peut-être aussi que nos habitudes de vie, notre confrontation à notre espace de vie, eh bien, il vient se modifier peu à peu et nous allons devoir nous adapter. Ces cahiers donc, d'usage, il est destiné à cela, c'est-à-dire à co-construire de façon partenariale, à la fois en s'appuyant aussi sur les retours d'expérience des usagers, mais aussi des acteurs de l'acte de construire, promoteurs privés, bailleurs sociaux, cette meilleure prise en considération de ces exigences, mais qui sont bien légitimes de la part de nos concitoyens.
Voilà donc pour l'axe « Un logement de qualité pour tous ». Il y a un autre axe, c'est un logement accessible pour tous. Et oui, il faut que tout le monde ait accès au logement. Et là, j'ai vu qu'il y avait un autre document existant qui s'appelle la charte d'accessibilité. Quels sont ses objectifs et avec quels partenaires travaillez-vous pour atteindre les objectifs en question ?
Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est un sujet qui a fait débat avec la nouvelle loi qui s'appelle la loi Elan et qui a apporté une modification majeure jusque-là, donc jusqu'en 2017-18, au moment où cette loi est entrée en vigueur, eh bien tous les logements devaient être 100% accessibles. Accessibles, bien sûr, pour des personnes en situation de handicap. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière ces termes d'accessibilité, c'est permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, et quel que soit leur handicap, qui peut être parfois très variable, hein. Néanmoins, jusque-là, il y avait une obligation de construire des logements 100% accessibles. La loi Elan a posé que cette obligation était maintenant réduite à 20%. Bon, bien évidemment, les associations qui représentent les personnes en situation de handicap s'en sont émues et nous ont demandé comment agir face à cette situation qui leur est apparue comme une forme d'injustice et d'inégalité. Pourquoi moi, qui suis en situation de handicap, eh bien, je ne peux pas avoir le même choix que d'autres ? C'est une question que nous avons souhaité aborder. Alors avec, encore une fois, des partenaires élus, Christophe Alves qui travaille sur toutes les questions de handicap, on l'a dit tout à l'heure, hein, ma collègue Julie Escudier sur les questions de solidarité et d'inclusion, mais aussi avec toutes les associations qui travaillent sur ce sujet. Pour considérer que maintenant, 20% dans tous les nouveaux logements, 20% des logements sont accessibles au sein de la loi, avec l'aménagement particulier des espaces, notamment de cuisine, à des hauteurs qui permettent en effet à une personne, par exemple, en fauteuil roulant de se déplacer, des ouvertures de portes qui permettent de circuler, des interrupteurs qui sont suffisamment bas, des pièces humides qui sont traitées aussi dans ces configurations. Et puis, il y aurait donc 80% de logements qui n'auraient pas ces préoccupations-là. Nous avons souhaité travailler là-dessus et finalement de façon très pragmatique avec les acteurs, encore une fois nos partenaires, bailleurs sociaux et promoteurs privés. Je veux les saluer tout particulièrement parce qu'ils ont fait un travail assez formidable. Ils se sont engagés beaucoup là-dessus et ils ont signé cette charte, ce qui est absolument exceptionnel. Ça vous semble presque naturel certainement, mais c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que la Fédération des promoteurs immobiliers a souhaité signer cette charte, c'est-à-dire s'engager pour que les 80% de logements qui n'avaient pas cette obligation, eh bien, choisissent des critères et peuvent en effet facilement devenir accessibles. Alors, ce sont parfois des petites choses très simples. Et les nouvelles technologies nous aident aussi, hein, les nouvelles techniques même nous aident aussi, c'est-à-dire pourquoi ne pas prévoir un interrupteur plus bas, finalement d'emblée, ça ne coûte pas plus cher, c'est normal. On peut prévoir des plans de travail de cuisine qui peuvent être adaptables, qui peuvent se monter ou se descendre facilement. Il y a une forme d'évolutivité aussi des logements qui peut être pensée en amont, pour permettre de meilleures ouvertures et de plus grandes pièces de vie quand c'est nécessaire. Et donc, nous avons comme ça construit tout un cahier d'accessibilité avec des choses très pratiques. Ce qui pose aussi souvent souci, c'est les accès dans l'immeuble. Comment on fait lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on arrive au portail de la résidence, pour accéder jusqu'à son logement. Donc, prévoir un certain nombre de dispositifs qui sont bien connus et qui peuvent être tout à fait mis en place, quand bien même on n'est pas sur cette obligation. Et ce cahier, il a été travaillé de façon très partenariale avec les acteurs de l'acte de construire, mais aussi de nombreuses associations qui représentent toute cette diversité des personnes en situation de handicap que je salue pour leur engagement dans ce travail, vraiment. Et c'est un travail qui n'est jamais abouti et qui doit continuer, bien sûr, et que nous poursuivons.
Et qui doit s'adapter en permanence, sans doute, aux nouvelles exigences.
Bien sûr.
Dont on n'a pas toujours connaissance au moment où on construit un bâtiment. Alors, j'ai vu que parmi les dispositifs qui existaient, il y avait un plan logement d'abord qui s'inscrit dans le plan national logement d'abord. C'est un plan national. Qu'est-ce que c'est ce plan logement d'abord ?
Alors, le plan logement d'abord, il a d'abord fait l'objet d'une expérimentation spécifique, puisqu'il est arrivé en 2017, pour tenter de donner une solution de logement à ceux qui sont le plus éloignés du logement. On le voit malheureusement et chacun le déplore, mais il faut trouver maintenant des solutions concrètes. Et c'est notre responsabilité en tant que responsable politique publique de trouver des solutions de logement et d'hébergement pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Soit par leur revenu, soit par leur mode de vie, soit parce que la vie a fait qu'ils se sont trouvés sans solution. Cette expérimentation de ce plan logement d'abord, elle a d'abord été mise en œuvre sur la ville de Toulouse, où en effet, on va trouver le plus de personnes concernées. Et aujourd'hui, et depuis le début de ce mandat, donc on en est maintenant à un déploiement qui devient plus large à travers Toulouse Métropole. Alors, plusieurs axes doivent être pensés qui impliquent ces axes-là, véritablement un accompagnement global. Il ne suffit pas de penser qu'il faut trouver un logement, qu'il existe quelque part, soit parce qu'il est vacant et que le propriétaire ne veut pas le mettre à la location, soit parce qu'il s'agit, par exemple, et on le voit beaucoup, et la loi l'avait posé, de bureaux qui restent vides, qui pourraient être facilement transformés, soit parce que nous construisons du logement social et il y aurait un fléchage, finalement, prioritaire, et c'est le cas de toute façon, pour ces personnes en difficulté et qui sont finalement restées en dehors des systèmes d'accès au logement. Souvent, ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement global. Et donc, il faut les accompagner, y compris socialement. Et c'est pour ça que notre politique logement d'abord va s'appuyer sur un groupement d'intérêt public, le GIP logement d'abord, qui est piloté là aussi par nos collègues de la cohésion sociale et des solidarités. Alors, on travaille également, et je veux le souligner, en lien avec le département de la Haute-Garonne, hein, puisque là, tous les élus sont bien sûr concernés.
Chacun oui, il y a plusieurs collectivités qui travaillent ensemble sur ces sujets.
Chacun dans leurs compétences. Les centres communaux d'action sociale de toutes les villes sont bien sûr concernés. Et donc, ce GIP logement d'abord va avoir pour objectif, en effet, de proposer des solutions globales pour ces personnes qui sont en difficulté et qui sont en dehors, je dirais, des circuits plus, si vous me permettez, classiques. On travaille notamment, et je veux les citer, avec l'association Habitat et Humanisme, avec l'association Union Cépierre-Monnier, qui sont très connues. Et notre ambition est de créer une agence immobilière sociale pour ces personnes-là, qui vont pouvoir trouver là un accompagnement beaucoup plus global, incluant aussi les questions d'autonomie, les questions de budget, comment je me retrouve dans un logement et comment là, de but en blanc, eh bien, je dois gérer un loyer, l'électricité, aller faire mes courses. Voilà, toute une vie qui doit se reconstruire et qui mérite un accompagnement. Alors ça peut concerner des jeunes très en difficulté qui sortent de systèmes d'accompagnement particulier pour les mineurs, ça peut concerner des personnes plus âgées et on le sait qui méritent cet accompagnement beaucoup plus global. C'est aussi ça le logement d'abord.
C'est dans cette réflexion globale que s'inscrit aussi le projet européen ROUF sur le thème de l'inclusion sociale. Et apparemment, Toulouse Métropole y participe.
Oui, tout à fait. Alors, on s'appuie en effet sur tous les dispositifs qui sont ouverts, que ce soit au niveau national comme au niveau européen, parce que cela nous permet aussi de nous appuyer sur des retours d'expérience et puis sur des financements, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ce sont des politiques publiques qui nécessitent des financements assez lourds, qui nécessitent la mobilisation des financements de la métropole.
Mais et donc, aussi des programmes européens éventuellement, lorsque c'est possible.
Et donc, en effet, ces programmes européens qui ouvrent aussi la voie vers de nouveaux financements en fonction des critères qui sont posés, eh bien, nous devons nous y inscrire parce qu'on doit explorer toutes les voies possibles.
On va parler maintenant des principaux projets de Toulouse Métropole en matière d'habitat et de logement. Quels sont ceux qui sont en cours aujourd'hui ? Alors on parle souvent de ZAC, ce qu'on appelle les ZAC, les zones d'aménagement concertées. Est-ce qu'il y a d'autres grands programmes de construction en cours ? Et puis, quel a été jusqu'alors en tout cas l'effet de la crise sanitaire sur l'avancement de tous ces projets ?
Aujourd'hui, très sincèrement, on ne mesure pas encore l'impact de la crise sanitaire sur... ce qu'on pourrait imaginer, un ralentissement de l'ensemble des projets qui étaient en
Donc,
cours.
Il n'y a pas de retard qui a été observé ou...
Pas de retard aujourd'hui observé,
constaté.
Et nous avons souhaité, avec le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudin, qu'avec l'ensemble des collègues, au contraire, maintenir cette ambition et ces mises en chantier. Pourquoi ? Parce que les mises en chantier, on le sait, la relance, elle passera aussi...
Par la commande publique.
Par la commande publique, par le soutien de la commande publique, par la construction, on l'a éprouvé en 2008 et en 2009. On sait très bien que c'est aussi tout le secteur de la construction et du BTP qui a porté la relance. La commande publique, évidemment, y participe à travers ses équipements publics, par exemple. Et donc, aujourd'hui, très sincèrement, on ne mesure pas encore les conséquences directes ou indirectes que va avoir, et ça va arriver, il ne faut pas se le cacher, la crise sanitaire sur le secteur de la construction et du logement. Mais ce n'est pas mesuré encore aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt, de sorte que les programmes suivent leur cours et que les élus dans l'ensemble des villes, globalement on peut dire, malgré les changements qui ont pu être opérés avec les récentes élections municipales, poursuivent en effet ces programmes-là. Alors il y en a de bien connus, on a le programme Gramont à Balma, Andromède à Blagnac, à Colomiers on connaît bien la ZAC des Ramassiers, on a aussi Andromède à Beauzelle, Piquepeyre à Fenouillé, l'Escalette à Pibrac, la zone Tucar à Saint-Aurens, qui était aussi une grande zone de développement urbain, la Sfonces à Villeneuve-Tolosane. Donc voilà, ce sont des projets qui étaient engagés, qui se poursuivent, et il nous faudra demain, effectivement, en ouvrir d'autres. À côté de ces grands projets, sous forme, vous l'avez dit, de zones d'aménagement concertées, en réalité, une ZAC, c'est qu'un outil de l'urbanisme pour les élus et pour maîtriser en effet le développement urbain de tout un secteur qui peut être assez grand, hein, qui peut avoir plusieurs centaines d'hectares. À côté de cela, on voit s'opérer des politiques de restructuration urbaine, ce que j'appelle, pour faire très simple et pour nos auditrices et auditeurs, la ville qui se refait sur elle-même. Et cela aussi, nous devons l'anticiper pour éviter d'avoir des quartiers qui se transforment sans que nous n'ayons posé une vision anticipée sur ces quartiers-là qui peuvent se transformer parce que les personnes qui les occupaient sont devenues plus âgées, elles vont vers d'autres formes d'habiter elles aussi, vers des résidences seniors. J'en profite pour dire qu'on travaille beaucoup sur les résidences seniors sociales aussi, parce qu'on voit ces résidences un petit peu très attractives hein, pour nos seniors. Et donc on voit comme ça des quartiers qui petit à petit vont muter et opérer des mutations urbaines. On travaille beaucoup avec Madame Léniaud, l'adjointe en charge, la vice-présidente à l'urbanisme, sur ces questions-là pour trouver les moyens dans notre planification urbaine d'accompagner ces mutations pour qu'elles ne soient pas ni brutales ni considérées comme des ruptures et qu'elles prennent en considération les enjeux aussi que nous avons aujourd'hui liés à l'environnement, au cadre de vie, aux déplacements, aux équipements. Et on voit là que toute la politique de logement et de l'habitat, elle vient percuter bien entendu toutes ces thématiques et donc nous engage à nous y intéresser à travers les documents d'urbanisme particulièrement.
Le mot qui vient à l'esprit toujours quand on parle de l'habitat, c'est que c'est un sujet très transversal.
C'est ça.
Alors je pensais, on parlait de commandes publiques et de grands projets, on terminera là-dessus, il y a la troisième ligne de métro. Est-ce que ça va être un axe très structurant pour tous les projets d'habitat et de logement dans les 10-15 ans à venir?
Bien sûr, et c'est bien normal quand on construit une troisième ligne de métro, une ligne de métro, donc un transport lourd avec une grosse capacité, évidemment, et on l'a vu, on l'a éprouvé avec le tramway, avec les deux lignes qui existent déjà, eh bien ces restructurations urbaines et cette intensification urbaine, elle va se développer. C'est pourquoi nous travaillons déjà avec l'ensemble des élus, maire de quartier pour Toulouse, élus concernés par cette ligne de métro qui fait quand même 27 km, sur ce qu'on appelle un pacte urbain. Ce pacte urbain, il va organiser la cohérence entre le transport et les déplacements et l'urbanisme. Et évidemment qu'on va souhaiter que le développement urbain se fasse au plus près de ces systèmes de transport parce que pour l'habitant, c'est une opportunité, c'est une chance. Et donc nous travaillons d'ores et déjà, et ça passera bientôt dans les délibérations, sur ces pactes urbains où nous imaginons d'ores et déjà comment aux abords et dans un périmètre qu'on appelle d'influence, c'est-à-dire combien de temps on est prêt à marcher pour aller jusqu'à la station de métro, combien de temps on est prêt à marcher pour aller prendre son linéo, eh bien, on sait très bien que dans ces corridors-là, on va opérer une transformation urbaine et une intensification aussi. Prends l'exemple de la ville de Colomiers, puisque nous avons la grande chance d'attendre cette troisième ligne de métro. Par exemple, je travaille sur deux secteurs, et sur ces deux secteurs-là, et je veux dire cela, c'est important parce que ce sera le cas sur chaque station, eh bien, nous nous sommes donné l'ambition de créer chacun, toutes les villes qui sont concernées, tous les maires de quartier qui sont concernés, des résidences à vocation spécifique. À Colomiers, par exemple, je me suis engagée sur une station à créer une résidence pour les femmes victimes de violences et sur l'autre station qui sera à Colomiers, un foyer pour les jeunes travailleurs et les jeunes étudiants, des résidences donc modernes, des résidences qui seront connectées à l'ensemble de la métropole avec cette troisième ligne. Vous voyez, c'est le genre de choses très concrètes qu'on travaille avec nos collègues élus pour préparer déjà l'arrivée de cette troisième ligne de métro.
Et ça montre là aussi un exemple qui illustre très bien la transversalité de ce domaine de l'habitat et du logement. Eh bien, il est temps de conclure ce numéro et pour moi de remercier celle qui en était l'invitée. Merci beaucoup, Karine Traval-Michelet, d'être venue à Radio Présence pour faire le point avec nous sur la politique que mène Toulouse Métropole dans le domaine de l'habitat et du logement. On sait que la crise sanitaire va avoir et a déjà des conséquences sur l'économie et l'emploi. Notre territoire n'échappant pas à ce constat, bien sûr. Ce ne sera pas sans conséquences non plus sur le logement, l'accès au logement, notamment pour les jeunes et pour les étudiants. Je pense donc qu'il était important de présenter aussi les dispositifs qui existent dans la métropole toulousaine pour aider les propriétaires et les locataires. Merci de nous avoir expliqué leur fonctionnement. Pour en savoir plus, avoir plus de détails sur le sujet, je signale que vous pouvez consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.com, à la catégorie Mission, puis à la rubrique Habitat. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une émission avec Dominique Faure, président de Toulouse Métropole chargé du développement économique, de l'innovation et de l'emploi. Bon week-end, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.